Je vais gentiment accueillir David et Diane Guya, qui sont du coup pasteurs de cette église. Et c'est un projet qui a germé, c'est un projet qui a demandé des sacrifices, c'est un projet qui a demandé de la confiance, beaucoup de foi, d'être entouré. C'est un projet qui a demandé beaucoup et c'est tellement honorant et touchant de les voir ce matin nous donner le message en couple. Je vous remercie d'avance pour ce que vous allez
partager. Merci Chélie. Merci à toute l'équipe de Louange. On est tellement heureux de vivre des temps forts dans sa présence, d'être avec lui. On se réjouit de partager ce message. On va le faire un peu en duo, tantôt l'un, tantôt l'autre. En tout cas, peut-être remettre juste un peu de lumière. Quelle aventure, quel merveilleux parcours on a pu vivre durant cette dernière année. Et ce matin, on voulait vraiment rendre gloire à Dieu, marquer le coup pour tout ce qu'il a fait. Alors, on ne va pas s'accrocher un pin's sur notre veste et puis juste être fier et heureux. Mais on s'est dit que c'était l'occasion de glorifier Dieu, d'élever son nom et vraiment de le mettre en avant. Parce que quand les choses vont pas bien, on n'hésite pas à crier à Dieu, puis à demander qu'il change les choses et qu'il agisse. Et quand on voit que Dieu agit, qu'il répond aux prières, qu'il fait des choses merveilleuses, on n'a pas envie de bouder notre plaisir, on n'a pas envie de ne pas l'honorer, de ne pas le glorifier et de ne pas faire la fête. D'ailleurs, tout au long de la Bible, on voit qu'il faisait la fête. On parle par exemple des 7 fêtes de la Bible. Déjà la Pâque, où il y avait la sortie d'Égypte. Il y avait la fête des pains sans levain qui est intimement liée à la Pâque. Et c'est marrant de voir que, par exemple, concernant la Pâque, il est dit qu'elle se fêtait au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et puis la fête des pains sans levain, c'était dans les maisons. Et moi je suis convaincu, enfin c'est pas là-dessus qu'on a basé la vision qu'on a et la façon dont on a envie de vivre pour l'instant les choses, mais je suis convaincu qu'il y a une force en vivant ces deux choses. De vivre à l'endroit où Dieu veut faire habiter son nom, faire venir sa présence collectivement ensemble dans un temps comme on le vit ce matin, mais aussi de partager le pain et des choses dans les maisons. Et je crois qu'il y a vraiment une force aussi là-dedans. Et il y a toujours eu cette culture de fête, notamment dans l'Ancien Testament, ça continue avec la fête des prémices, fête de la moisson, la Pentecôte, fête des trompettes, fête du pardon des péchés, fête des tabernacles, la fête des vendanges. Ah non, ça ne doit pas être dans la Bible, mais si Jésus avait changé, quand Jésus a changé l'eau en vin, sûrement que c'était du pinot noir de château, je pense. En tout cas, ce matin, j'ai pas envie de faire un enseignement sur toutes les fêtes, mais Jésus, en venant sur terre, il a pas mis de côté ses fêtes. Au contraire, il s'inscrit en plein dedans. Il aime la fête, il aime les fêtes. C'est à la fête de la Pâque qu'il se donne comme un agneau. Et ça donne une toute nouvelle dimension à Pâques. C'est à la Pentecôte qu'il répand son esprit. Et ça donne une toute nouvelle dimension aussi à la Pentecôte. Il aurait pu faire ça à un autre moment, mais il s'est inscrit dans ces temps de fête, de célébration. Dieu aime la fête. Il aime quand on célèbre des victoires, quand on raconte ses hauts faits. Combien de psaumes nous encouragent à célébrer Dieu? Pour qui il est, mais aussi pour ce qu'il fait. Par exemple, le psaume 150, verset 2, où il est dit: louez Dieu pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Donc on le loue pour ce qu'il fait, ben c'est vraiment être reconnaissant. C'est être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est un état d'esprit de joie qui nous ouvre les portes aussi pour en vouloir plus. Pour en vouloir plus. Et le psaume 100, par exemple, nous dit: servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger. Nous sommes son peuple, son troupeau. Et là, au verset 4, il est dit: entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Il y a vraiment le fait d'entrer dans son temple avec reconnaissance. Et c'est vraiment un état d'esprit. On peut tout simplement venir joyeusement dans sa présence. Et j'aime beaucoup la traduction The Message qui dit: entrez avec le mot de passe merci. Faites comme chez vous, louez Dieu. Et c'est exactement ça, il n'y a pas besoin de prouver avec un robot combien il y a de taxis, de feux rouges ou de collines, comme quand vous cherchez quelque chose. Non, il suffit de rentrer par la reconnaissance en lui disant merci. Et la reconnaissance, elle t'ouvre les portes de sa présence. Elle t'ouvre les portes de sa présence. Tu peux te sentir comme chez toi, chez lui, dans sa maison. D'ailleurs, le psaume 50 nous dit « Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. » Et juste plus loin, il dit « Et je te délivrerai et tu m'honoreras. » Il y a quelque chose quand on est reconnaissant qui libère l'action de Dieu. Et la reconnaissance, c'est-à-dire c'est glorifier Dieu pour ce qu'il fait, c'est aussi louer Dieu pour qui il était. Ça ouvre les portes de sa présence, il est, et ça nous permet de rencontrer ce « je suis », ce Dieu qui nous permet de le rencontrer aujourd'hui, et il nous fait découvrir ce qu'il va faire dans le futur, il sera. Il était, il est, il sera, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on désire marquer le coup, fêter ensemble, et je me réjouis déjà de l'apéro qui a été préparé par une équipe de choc, vous avez pu voir, contrairement à un bar et à un salon qu'on a normalement de l'autre côté, vous avez déjà pu voir les prémices. Comme ça, vous découvrez aussi comment à l'Église Passion, on fête le jeûne fédéral. En tout cas, on désire vraiment rentrer dans cette reconnaissance et puis glorifier Dieu. Parce qu'on est heureux pour ce qu'il a fait hier, ou toute cette année, ou même avant, qu'on aime rencontrer Dieu dans sa présence aujourd'hui, dans qui il est, et puis on en veut toujours plus. Il sera. On a cette confiance qu'il va continuer d'agir, qu'on est qu'au début de quelque chose. Mais avant de poursuivre, j'aimerais, simplement pour glorifier Dieu, qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro, et puis qu'on puisse voir rapidement un peu le chemin parcouru, vu qu'aujourd'hui on marque un peu, c'est une année, c'était le 12 septembre. Mais souvent on ne se rend pas compte sur le moment quand on vit des choses. On vit des bons moments, on vit des défis, les uns après les autres. Et c'est comme quand vous marchez ou que vous courez, vous vous rendez pas toujours compte. Tout à coup, ah, ça descend fort, ah, là, ça monte, je sais pas. Puis quand vous regardez en arrière, tout à coup, vous voyez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous dites, ah, quand même. Par contre, si on passe sa vie à regarder dans le rétroviseur, c'est aussi le meilleur moyen pour prendre le prochain virage. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est comme poser une borne de reconnaissance sur notre chemin. Remercier Dieu et puis regarder en sens qu'on désire vivre, ce que lui désire qu'on vive. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, on en a déjà aussi quelques fois parlé, ou vous pouvez réécouter le tout premier message sur le site qui parle un peu de comment tout est né, mais je vais dire deux, trois mots quand même. On a recherché le Seigneur pendant des mois, en sachant, mais qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et le 21 juillet 2020, il y a eu un coup de tonnerre qui est tombé de nulle part, et Dieu nous a parlé indépendamment à Diane et à moi, le même jour, vraiment que c'était le coup de départ de quelque chose, c'était le moment de se lancer. Comme ça faisait un moment qu'on était dans les starting blocks, mais c'était le moment d'y aller. Mais on n'avait rien, on avait juste les mains vides. Mais c'était quand même le moment d'y aller, malgré tout, et de commencer tout petit. Et dans cette époque de transition, je me souviens, on a souvent des fois pris un café avec Alain, on s'encourageait l'un l'autre, des fois c'est moi qui l'encourage, des fois c'était lui. Puis souvent il me disait, mais tu sais, il faut vraiment que vous viviez, puis que tu vives tout ce qu'il y a à vivre, prenez le temps, il ne faut pas se précipiter, c'était vraiment juste une parole de Dieu. Puis on s'est vu une fois, on reprend nous un café, c'était deux jours après que Dieu nous ait parlé avec ce coup de tonnerre. Puis il dit, tu sais David, je ne sais pas où vous en êtes, qu'est-ce que tu vis à l'intérieur? Mais j'ai l'impression que c'est le moment maintenant de commencer quelque chose. Puis je dis, waouh, si tu savais que Dieu vient de nous parler il y a deux jours, qu'il fallait qu'on commence, même si on n'a rien, même si on ne sait rien. Dieu vient nous parler, quelle confirmation, c'était le temps de Dieu vraiment qu'on commence quelque chose. Et le 10 août 2020, donc un peu plus d'une année, on s'est réunis pour la première fois, quelques-uns, dans un petit local, au port de Saint-Blaise, ça devait être 25 mètres carrés, on était 30, il faisait 35 degrés. Ça, c'est le wellness du Seigneur. On commence par la chambre haute, dans le sauna. On demandait le feu, mais on ne pensait pas forcément au niveau du thermomètre. Mais c'était vraiment magnifique. Je vous donne un petit aperçu de la salle pour ceux qui n'étaient pas. Une petite salle. Vraiment, on l'a vraiment vécu là. Deux fois, on était juste deux fois. Il fallait déjà prendre plus grand après. On a vécu des bons moments là-dedans. Et c'était un peu comme à la création. C'était ce qu'on vivait. C'était la terre, elle était informe et vide. Mais ça a grandi. Nos réunions se sont succédées ensuite dans une salle de paroisse dans les sous-sols de l'église catholique de Saint-Blaise. Et je vous montre une petite image aussi. En juin l'année passée, donc trois mois avant qu'on ait notre premier culte, voilà nos réunions de prière où on s'est réunis, on a cherché Dieu semaine après semaine, des fois Zoom après Zoom. Et puis voilà, simplement où on a pu vivre aussi des mois et des mois de gestation où on a cherché Dieu ensemble. Une gestation, parce que quelque part, plutôt que d'organiser l'Église avec des stratégies savantes, on a voulu vivre Dieu, vivre sa présence, et c'est ce qu'on désire toujours faire aujourd'hui. La gestation a été lancée, elle a duré environ 14 mois, et le 12 septembre l'année passée, ici, on a eu notre premier culte. Et cette gestation de 14-15 mois, c'est comme la girafe est née. La girafe, c'est notre mascotte pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'on désire être une église qui a la tête au ciel et les pieds sur terre. Et Dieu a continué à multiplier les miracles avec différentes ressources en touchant le cœur de personnes de valeur qui allaient s'impliquer, que ce soit dans la technique, la louange, l'intercession, la déco, la générosité, l'amitié, et j'en passe. Vraiment, et ça continue. Un vrai parcours de foi, alors que quelques semaines avant notre premier culte, il n'y avait presque rien, il manquait beaucoup de choses. Mais Dieu a manifesté sa bonté, il a manifesté sa grâce, il a vraiment fait fort. Et il a commencé à former un petit groupe, petit à petit. Et je crois que c'est que le début, un groupe de gens passionnés qui viennent chercher sa présence pour rentrer dans un nouveau projet que Dieu a pour cette région. C'est-à-dire briller, puis tous ceux, et toucher tous ceux qui ne savent pas encore, qui font partie de la famille. Un groupe de gens de différents horizons, qui ne veulent pas mettre le focus sur le passé ou sur ce qu'on a pu vivre, mais qui mettent le focus sur le présent et sur ce qu'on veut vivre dans le futur. Comme j'aime le dire, pas comme les vétérans du Vietnam qui vont que te parler de leurs souffrances passées, et finalement, voilà, on a un petit club, et puis la barre pousse, puis on ne fait plus grand-chose. Non, on a envie de chercher Dieu et de le rencontrer aujourd'hui, puis de voir où il nous mène demain. Et c'est là, c'est ce qu'on a mis le focus, et c'est là-dessus qu'on veut mettre le focus pour la suite. Une église passionnée par Dieu et passionnée pour les gens. Et là, je vais donner la parole à Diane, et je reviens après, et on va poursuivre. C'est ton message.
Alors j'enchaîne. Dès le début, comme l'a dit David, l'Église Passion est née vraiment dans l'écoute de la voix de Dieu et de l'appel du Saint-Esprit qui a retenti dans mon cœur. Et c'est un peu comme pour Ésaïe, on peut lire dans Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et c'était vraiment ce cri du cœur où on a entendu l'appel du Saint-Esprit nous dire, « Qui enverrai-je ? » Et là, quand il y a eu ce coup de tonnerre, on a dit, « Envoie-nous. » C'était le moment. Le cri de nos cœurs de faire la volonté de Dieu était tellement fort. Le désir de le suivre, lui, et pas forcément nos impressions, nos émotions, selon nos émotions, mais de chercher lui et de trouver une relation de cœur à cœur en toute liberté avec le Seigneur. Et aujourd'hui, encore, ce qui nous anime, c'est le désir vraiment d'être consacré plus à Dieu et de lui faire plaisir à lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. Et ce verset de Romains 11, verset 36, c'est comme une racine de cette Église. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer. C'est à cause de lui, c'est par lui que les choses sont nées. C'est de lui, pour lui, et surtout pour sa gloire. Et avant que les cultes ont commencé dans cette salle, comme l'a dit David, on était dans une petite salle à Saint-Blaise, vous avez pu voir les images. Et on a vraiment pris du temps dans la prière, dans la louange. Plusieurs étaient là, déjà dès le début. Et en toute simplicité, on s'est retrouvés devant un écran télé, au beamer, il n'y avait pas de musicien. Et pour vous dire, on se retrouvait finalement juste seul, face à des paroles qui louaient Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas de gens pour nous dire « tapez des mains » ou « levez-vous » ou « agenouillez-vous ». C'était juste nous et Dieu. Moi et Dieu. Et petite anecdote, pourquoi il y a des bûches? Pourquoi il y a eu du bois? C'était vraiment un temps particulier qu'on a vécu cette soirée-là. C'est comme si on a dit à Dieu, mais on est comme cette bûche et on vient vers toi. On se dépose, on a déposé nos bûches chacun pour ceux qui se sentaient libres de le faire et de se déposer, dire Seigneur, voilà ma vie. Je me donne à toi et je désire tellement, tellement que cette passion, ce feu et cet amour que tu veux mettre dans ma vie puissent me toucher. Je suis juste disponible. Dieu, il a besoin de nos vies qui sont disponibles. Et c'est lui qui dispose et c'est lui qui œuvre en nous ensuite. Et on a pris ce temps et on a pris le temps. C'est ça qui est beau, le temps. On ne s'est pas précipité, on a pris le temps d'être dans sa présence. Il y a eu des moments tellement intenses, et notamment à ce moment-là, ça c'est un zut, où vraiment on a senti que Dieu répandait sur chacun de nous son amour. C'était incroyable. Son cœur du Père nous a rejoints comme on était à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, mais c'était un peu une période Covid, où on n'avait plus trop de relations, on ne pouvait pas se toucher pour prier les uns pour les autres. Mais c'est Dieu qui est venu nous toucher. C'est Dieu qui est venu toucher nos cœurs. Et je me souviens d'un moment tellement assez particulier. Littéralement, Dieu a appelé tous ceux qui étaient là dans la pièce, un à un, par son prénom. Et je me souviens que ça a donné « Sarah, je t'aime tellement. Erika, je t'aime tellement. » Et chacun a eu son prénom cité. Et Dieu disait « Je t'aime, mais tellement, mais tellement. Sache que je t'aime tellement. » Et c'était une impulsion du Saint-Esprit, un jalon qui a touché chacun de nos cœurs. Une marque que Dieu a déposée dans nos cœurs, qui porte encore ses fruits aujourd'hui. Le désir de Dieu de nous avoir tellement plus proches de lui. Cet appel, cet écho, je t'aime tellement, il retentit encore aujourd'hui pour vous qui êtes ici. Et Dieu continue à dire, Stéphane, je t'aime tellement. Bernard, je t'aime tellement. Irène, je t'aime tellement. Je ne vais pas faire toute la salle, sinon on n'a pas fini. Mais c'est vraiment cet élan du Saint-Esprit qui était là. Dieu veut vraiment combler nos cœurs de son amour à en déborder bien au-delà de nos propres vies pour sa gloire à lui. C'était vraiment une déclaration d'amour et cette déclaration d'amour, elle reste encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Il nous dit aujourd'hui, je t'ai aimé le premier. C'est moi, Jésus, qui te dit ça. Je t'ai aimé le premier et je continue de t'aimer. Quoi que tu aies vécu ces dernières années, d'où tu viens, ce que tu es en train de vivre maintenant, ce que tu as vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours et même ces dernières heures, il veut se rapprocher de nous. Dieu nous dit, ouvre ton cœur et ta pensée à la folie de mon amour, parce que je désire tellement que la passion revienne dans ta vie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, nous découvrons le récit de Jésus qui a été invité à manger chez un pharisien qui s'appelle Simon. Et il y avait une attente probablement sur Jésus qu'il puisse parler de son père et du contact un à un avec chacun. Mais voilà qu'une femme qui vivait dans le péché s'est faufilée dans le repas. Et elle est venue audacieusement aux pieds de Jésus. Et elle s'est mise à pleurer tellement que ses larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Avec ses cheveux, elle a dû lui essuyer les pieds. Et en plus, elle lui a embrassé ses pieds. Après ça, elle a ouvert un flacon avec un parfum de grand prix et elle l'a répandu sur les pieds de Jésus. Quelle audace! Puis quelle déclaration d'amour, malgré les réactions négatives qu'il y a eu là, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont dit, mais c'est qui cette femme? En plus, elle vit dans le péché, qu'est-ce qu'elle est venue faire? D'autres ont dit, mais quel parfum elle utilise? Mais il a tellement de prix, on aurait pu le vendre, garder l'argent et le donner à d'autres qui auraient des besoins. Mais Jésus, lui, l'a regardé au cœur de cette femme. Et puis il a dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. C'était la coutume. Vous avez des sandales, vous marchez dans le sable. Mais elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, parce que la coutume aussi, c'était d'accueillir la personne avec un baiser en Israël. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Dieu accueille tout le monde, vraiment. Et Jésus, en prenant la défense de cette femme, il a balayé les jugements et les critiques des personnes qui étaient présentes. Et il a honoré cette femme, c'est quand même magnifique. Il s'est levé pour elle et il a dévoilé le sens de ses actes. Pourquoi elle a pleuré? Pourquoi elle a versé des larmes? C'est par amour. Pourquoi elle m'a embrassé les pieds? Pourquoi elle a répandu ce parfum de grand prix? C'est encore par amour. Elle a vu ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Et cette attitude de cette femme est tellement touchante. Elle a démontré que son amour pour Jésus est tellement fort qu'elle lui a donné les forces d'aller au-delà des convenances et au-delà du jugement humain qu'il y avait là. Honorer Jésus et l'aimer, c'est son premier, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, elle était passionnée. Elle a donné le meilleur pour le Seigneur. Elle n'était plus sous le contrôle de la peur du regard des gens, puisque ça critiquait autour, mais son cœur était tellement épris d'amour pour Dieu que ça comptait plus. Elle était animée par la puissance de l'amour. Alors si on est ici présent en Église Passion, c'est que d'abord on a été saisi par l'amour de Dieu. Et c'est notre plaisir aussi de l'aimer en retour, ensemble, davantage. D'être passionnés, libres d'aimer Dieu. Nous voulons être des chasseurs de Dieu, persévérants, audacieux. En fait, assister au culte et puis profiter de ce qui se passe, ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit plus, on veut plus. Être acteur, être des chasseurs, des chercheurs du cœur du Père. Nous sommes redevables à Dieu de ce qui nous a aimé le premier, un peu dans quelque sorte, en quelque sorte. Et chercher sa présence, en cherchant sa présence, on répond à son amour. Et lui, il attend, il nous accueille. La Bible nous dit que si on a peu, soif, ben on recevra peu. Et si on en veut plus, eh bien, il y a plus. Et je me dis que ça, c'est un peu la pilule remède par rapport à la frustration. Je ne dis pas que je n'ai pas eu de frustration avec Jésus, où je voulais plus de lui, puis que ça n'en est pas encore. Mais je crois que là, Dieu nous dit, avec Dieu, on ne peut pas vivre forcément dans la frustration parce qu'il y a l'abondance. On aimerait cultiver un espace qui favorise sa présence, que là où on se trouve tous ensemble, ça soit saturé de la présence du Saint-Esprit. Quand on vient, on le cherche, on le loue, il est là. Et c'est ça notre but. Que notre attention soit portée sur lui et que sa maison, que ce lieu, enfin que nous, on vit déjà, et que ce qui se passe en Église Passion, ce soit pour lui et que ça l'honore. Et que ce soit en quelque sorte cette maison de prière que Jésus a dit, je veux une maison de prière, là où Dieu est au centre. Là où Dieu est prioritaire. Tout faire pour lui, de lui, en lui, pour sa gloire à lui. Si maintenant je pouvais faire un rêve éveillé, eh ben, je verrais le Saint-Esprit agir ici, dans cette salle. Et il me montre l'intensité de son amour pour chacun d'entre nous. La présence du Saint-Esprit est palpable. Je vois des cœurs qui sont restaurés. Je vois des corps qui sont guéris. Je vois des personnes qui retrouvent un sens à leur vie simplement en entrant ici. Parce que juste Dieu est là. Je vois des personnes qui ne sont plus enfermées dans la timidité, mais qui ont un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui sont des personnes convaincues, passionnées. Et je vois même que c'est contagieux, qu'il y a de la joie, il y a des rires, il y a des amitiés fortes. car Dieu est là dans toute sa puissance. Et je crois que c'est aussi pas qu'un rêve qui m'appartient, mais c'est un rêve que Dieu a sur son cœur. Qu'on puisse vivre ensemble, en Église, cette dimension du surnaturel, et que quand on entre dans sa présence, il a le contrôle et il agit, et qu'on se laisse toucher simplement. Je laisse encore la place à David, puis je poursuivrai après.
Et pour poursuivre, j'aimerais déclarer ce verset du psaume 127. Si une maison n'est pas construite par le Seigneur, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si le Seigneur n'y bâtit pas l'église, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, c'est pas qu'on construit rien, mais ça serait du vent. Il y aurait peut-être une belle apparence, mais peut-être pas de consistance. Comme je partageais ça il y a deux cultes, de la culture d'emballage, où finalement, des fois, ce qui compte, c'est que ce qu'on voit. Mais j'aime la traduction de The Passion qui dit « Si la grâce de Dieu n'aide pas les bâtisseurs, ils travailleront en vain pour construire une maison. » Et être aidé par la grâce, c'est pas juste tout à coup, il y a une force divine qui vient nous saisir. C'est une force, bien sûr, mais c'est une aide malgré notre incapacité, malgré nos limites, malgré nos imperfections. Et on s'est senti, puis on se sent des fois tellement démunis. Mais l'essentiel, justement, c'est de dépendre de Dieu, de sa vie, de sa présence, de ce qu'il désire faire. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui, j'allais dire sans austérité neuchâteloise, on peut célébrer Dieu pour ses un an d'église, parce qu'on sait à qui revient le mérite. Et toute la gloire vient juste à Dieu. Parce que c'est lui qui donne la grâce à chacun d'entre nous, qui nous sommes levés, on est d'innombrables, qui partageons ce rêve et qui nous voulons, où on veut avoir un impact dans cette région. Dépendre de Dieu et marcher jour après jour en étant connecté à son écoute. Or, bien sûr, Dieu nous donne un mandat, mais je ne pense pas qu'il nous donne juste comme mission « Allez, implantez une église, puis faites votre job, puis moi je vais vous bénir. » Je crois qu'il désire cette dépendance et cette amitié, cette collaboration avec nous, avec les amis que nous sommes chacun, avec nos dons, avec les talents peut-être qu'on a bossé, avec nos imperfections, parce qu'il aime l'Église et il veut être celui qui bâtit avec nous. Il nous aime tellement qu'il veut faire avec, il ne veut pas juste nous regarder faire, puis c'est lui qui endosse même la responsabilité de la construction. C'est un peu comme un papa, son plaisir, c'est pas juste d'offrir une boîte de Lego à son petit garçon, puis après c'est bon, mais il aime construire avec, faire avec. Et je crois que Dieu, il ne veut pas juste nous donner une boîte de Lego, puis allez, faites un nouveau projet. Il a envie de faire avec nous. Il a envie de faire avec nous. Et je crois que c'est la base. Un des versets qui nous a accompagnés durant toute cette gestation d'Église, même avant, et j'espère encore et toujours, c'est dans Jean 5, verset 19, où il est dit que Jésus faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Jésus, il n'est pas allé plus vite que la musique. Il aurait pu dire, bon, ça va être difficile ce que je vais faire ici, je vais donner ma vie et basta. Allons-y, faisons-le le plus vite possible. Il aurait aussi pu dire, être attentiste, et puis se dire, non, mais quand il angoissait comme un malade avec du sang qui sortait des pores de sa peau tellement il était mal, il n'a pas non plus laissé traîner, il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Il a agi selon le rythme du Père. Et ça demande une relation forte, une dépendance avec Dieu, une écoute, un cœur à cœur. Et ce qui compte, ce n'est pas de bâtir une maison selon nos plans, on sort comme on avait reçu les plans d'architecte, on déroule, puis on y va avec toutes les belles stratégies possibles et imaginables. Mais vraiment constamment être dans ce cœur à cœur avec le Père, par le Saint-Esprit, puis avancer selon ses plans, parce que c'est lui qui bâtit son Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui le fait. Et quand il parle à Pierre de son projet d'Église, quand ils sont juste 12 disciples, il annonce la suite de l'Église qui va naître, sachant que lui, il ne serait déjà plus là. Et il demande à Pierre qu'est-ce qu'il pense que lui est. Et puis Simon lui dit dans Matthieu 16, il dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole, puis il lui dit, mais Simon, tu es heureux. Parce que ce n'est pas une pensée humaine qui t'a été révélée, mais c'est par mon Père céleste. Et là, de nouveau, il faut une connexion avec le Père pour avoir cette révélation. Puis après, il poursuit. Jésus lui dit, mais moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est Dieu sur terre, c'est un rocher tellement fort, tellement puissant, c'est le fondement de la maison que Dieu veut bâtir. C'est Dieu qui bâtit cette maison. Et Jésus, il est cette pierre principale, cette pierre de l'angle, qui tient tout. Comme il est dit dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même cette pierre de l'angle. Puis ensuite, c'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. Alors dans la Bible, il est question de pas mal de temples, notamment le premier temple mobile, le tabernacle qui bougeait, le camping. Et puis ensuite, David qui avait vraiment dans son cœur envie de bâtir une maison pour Dieu, et finalement c'est son fils qui l'a fait avec le temple de Salomon. Mais là, le temple dont parle Jésus, ce n'est pas un temple fait de la main des hommes, mais c'est un temple spirituel. C'est lui la pierre principale, et toi et moi, on est les pierres vivantes qui nous édifions comme un édifice, comme on vient de lire dans Éphésiens. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 2, 19, aux Juifs en parlant du temple, « Détruisez ce temple de Salomon, ce temple de pierre physique, moi je le rebâtirai en 3 jours. » Cependant, il est mis, lui parlait du temple de son corps. Et s'en allant au séjour des morts, pendant 3 jours, en ressuscitant le 3e jour, que Jésus allait poser cette première pierre de l'église que lui bâtit dans le monde entier. Et tous ceux qui allaient le suivre et le servir allaient être ces pierres qui allaient non seulement former un temple physique, mais une maison spirituelle. Là, je laisse Diane poursuivre et je reviendrai après encore.
Je me souviens d'un partage qu'on a eu au tout début en famille sur la possibilité d'avoir d'une nouvelle église. Et pour nous, ce qui était important, c'était la vie de nos enfants, la vie de Shelly aussi, parce qu'elle était déjà partie, elle était en fréquentation avec Jonathan, elle faisait partie déjà de la famille. Et pour nous, ça comptait tellement que leur avis, leur impression, parce que ce serait une aventure, où ben justement, comme l'a dit Shelly, il y a des sacrifices, des fois, à payer, et c'est pour, toujours pour Dieu. Mais en fait, il faut qu'on soit tous unanimes et d'accord avec ça. Et on a eu un partage en étant au bord du lac, à Neuchâtel, en leur disant, ben voilà, on sent que Dieu, il est prêt qu'une nouvelle église naisse dans cette région. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais juste vous partager la pensée que Shelly avait partagée, qui reste encore dans mon cœur. Shelly a partagé cette pensée du Saint-Esprit que Dieu aimait, simplement l'idée d'une nouvelle église. Mais que l'Église, cette Église, serait pionnière et différente des autres. Alors être pionnier, c'est être une personne qui ouvre la voie de faire quelque chose pour la première fois. Et c'est, je crois, prendre des risques par amour et par la foi. Être pionnier, c'est aussi être des personnes passionnées, alors sans gêne, audacieux pour lui, et qui se laissent guider par le Saint-Esprit dans des chemins nouveaux. Dans le texte, justement, de Luc 7, cette femme, elle a su aimer et honorer Dieu d'une manière qu'on n'avait jamais vue, vous êtes d'accord? Je peux dire, en quelque sorte, que c'était pionnier. C'était surprenant. Et ici, à Neuchâtel, il y a des églises. Et alléluia! Mais réellement, le projet de l'église patiente est accueilli avec joie par les pasteurs de la ville. Ça fait plusieurs mois, des années même, je dirais 20, t'as dit combien, 20 ans presque, que les pasteurs de la ville prient ensemble, ils se bénissent parmi, ils partagent leurs challenges. Et là, ils disaient, on est tellement heureux et on soutient cette démarche pionnière que tu as avec ta famille, David. On soutient l'Église Passion, ils sont heureux parce qu'il y a de la place pour de la nouveauté, il y a de la place pour l'originalité, la diversité et la folie de Dieu. Si vous sentez appartenir à l'Église Passion, j'ai envie de vous dire bienvenue dans un projet pionnier. Nous sommes en marche dans un chemin nouveau. Et comme l'a dit David, il n'y a pas tout qui est établi, pas tout qui est figé. C'est que le début. On a une année juste, hein? Pas de pression, s'il vous plaît. On est complètement dépendant de Dieu. Parce que c'est son projet à lui. Et c'est lui qui a choisi d'œuvrer au travers et avec nous. Et Et ce qui est assez challengeant, c'est qu'on apprend à connaître Dieu d'une autre manière quand on est dans des chemins nouveaux. On connaît des facettes nouvelles, on devient, comme je viens de le dire, dépendant de Dieu. Et puis, ce qui est challengeant, en tout cas pour moi, c'est d'entrer dans son timing à lui. Parce que, qu'est-ce que parfois je suis impatiente. Personnellement, j'apprends à lâcher prise, à lâcher le contrôle, et puis surtout à abandonner mes stratégies humaines. Parce que quand les choses, elles sont pas encore là, mais qu'est-ce qu'on fait des plans sur la comète, et puis qu'on imagine qu'on pourrait peut-être bien faire comme ci, puis comme ça, puis on se dit mais ça ira pas, puis en fait c'est trop lourd. Et il faut juste faire confiance que lorsque les choses n'existent pas encore, et ben c'est Dieu qui veut faire son entrée et amener sa logique divine. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans cette zone du miraculeux. Et j'aimerais vous partager juste un dernier témoignage de ce qu'on a vécu tout dernièrement. Depuis la rentrée de cet été, les enfants, il y en a une vingtaine, 25 enfants avec la garderie, ou 28 des fois, ça varie. On a commencé avec 8 enfants, 5 dans le groupe des grands, 3 dans la garderie. Et maintenant, il y en a 20 dans le groupe des grands et 5 à 8 dans la garderie. Et on a juste une simple salle en haut. Et on a dit, Seigneur, c'est juste pas possible. On a cherché une solution. On se disait, mais bon, l'hôpital loue des salles à côté. Ils ont formé des salles de conférence avec Beamer, bien installées. On va s'approcher d'eux et on a demandé le contact à l'intendant qui s'occupe des locaux. Et on lui a dit, mais comment on peut faire? Est-ce une possibilité, tu penses, qu'on puisse avoir ces salles? Ben, je vous donne le contact, faites la démarche. Et on a écrit le matin, vendredi, je me souviens, c'est un vendredi et l'après-midi, d'entrée. Ah non, on ne peut pas répondre à vos besoins. Voilà, comment on va faire pour ces filles? Parce que c'est juste pas possible. S'il y a d'autres enfants, ben, il faut quand même les accueillir d'une manière... ouais, qu'ils aient de la place et de la liberté de bouger et tout ça. Et on s'est dit, ben, on va partager ça à l'intendant qui est ici. On lui a dit, mais ben, voilà, notre demande a été refusée. Et je ne sais pas, enfin, je crois que c'est Dieu qui l'est. Enfin, il a un cœur énorme. C'est un homme incroyable. Et en fait, je pense qu'il reconnaît ce qu'on vit ici, enfin, même s'il n'est encore jamais venu. Peut-être que vous êtes dans la salle maintenant, pour la première fois. Mais il nous a dit, mais écoutez, juste si vous regardez, vous pouvez tourner la tête, il y a une porte là, vers une façade de bois. Et il y a toute une salle où on peut contenir 50 personnes avec une baie vitrée. Puis il a dit, ben, j'ai du commerce là pour... le nettoyage, j'ai des parois, mais je pourrais vous faire une place pour vos enfants. Et j'étais là, mais Seigneur, c'est tellement bon. C'est incroyable. Enfin, c'est croyable. Merci. Et je crois que Dieu, il connaît toutes choses et il agit en son temps et à temps. Et ça, des fois, j'ai un peu plus de mal avec le à temps. J'ai un peu l'impression que des fois, c'est à la dère, mais il est à temps. Et à travers ça, on apprend l'humilité, à être souple, à s'adapter et surtout ne pas paniquer. Hein? Vivre l'Église comme Dieu l'imagine, c'est super enthousiasmant, mais c'est aussi déstabilisant. Notre moteur, c'est vraiment lui, notre amour pour Dieu et aussi l'amour qu'on a les uns pour les autres. On aimerait vraiment développer un tissu relationnel qui vient de Dieu, qui vient du cœur de Dieu. Être passionné de Dieu, nous devenons passionnés pour les gens. Et c'est alors qu'on recherche le cœur de Dieu, que les choses découlent de ça, et qu'on commence à ressentir ce cœur du Père et avoir des relations comme dans une famille. C'est vraiment le Saint-Esprit qui tisse ces liens. Comme je l'ai déjà partagé dans un message, c'est vraiment dans cette notion du cœur à cœur avec le Père. Parce qu'il faut un papa et une maman pour faire une famille. Mais c'est quand on a une relation avec le Père qu'on devient une famille. C'est pas juste en organisant des pique-niques. Alors oui, ça facilite les relations, mais c'est plus que ça. C'est une dimension surnaturelle et spirituelle, je veux dire. Et c'est pour ça qu'on a fait des groupes ressources. Parce qu'on sait que les uns et les autres, on est une ressource pour l'autre et qu'on a besoin d'être ressourcés par les autres. Simplement parce qu'on reconnaît qu'on a des perles, des personnes de valeur à côté de nous, et qu'on veut rester authentique, montrer aussi nos vulnérabilités. on a besoin des uns et des autres. Et on est cette même famille avec le même Père. On est une famille avec Dieu au-dessus de nous. Et on se réjouit vraiment de poursuivre cette aventure et de tisser des amitiés encore plus grandes. On a choisi de faire des groupes ressources et de se mélanger tous les 6 mois. C'est justement pour casser des clivages ou des clans ou comme ça. C'est pour apprendre à se connaître générationnellement des différences, d'où on vient, de comment on vit les choses. Et c'est tellement enrichissant. Et c'est tellement beau. C'est une dimension qui va dans la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu et de ce que Dieu nous a créés tous. Vraiment pour nous unir, je crois. Je laisse la place.
Pour terminer ce matin, j'aimerais reprendre un passage qui va conclure un peu cette pensée dans 1 Pierre 2, verset 4, où il est dit, et ça résume un peu ce qu'on a partagé, « Approchez-vous de lui, alors vous aussi comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. » Et je crois que c'est le plan que Dieu a pour cette génération dans ce monde ici. C'est déjà qu'on puisse s'approcher de lui. C'est la base, c'est le fondement. Diane en a parlé, on a aussi pris toute une saison de groupe ressources, un livre Chasseur de Dieu pour chercher sa présence. Tout commence avec le fait de s'approcher de lui, d'être amoureux de sa présence. Parce que s'il n'est pas là, l'église est vide, vide de Dieu et surtout vide de sens si celui qui bâtit n'est pas là. Mais celui qui bâtit veut faire avec nous. Et il est dit, vous aussi comme des pierres vivantes, vous servirez à la construction de la maison. Ce n'est pas 3 personnes qui construisent, c'est chacun comme une des pierres vivantes. Et il n'a pas comme but qu'on soit juste des spectateurs, mais comme des pierres vivantes, on sert à construire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette image biblique des pierres, c'est que ce n'est pas juste le faire, mais c'est en étant des pierres vivantes. Donc ce n'est pas juste par le faire et le faire et le faire, mais c'est en étant qui je suis. Je me donne à Dieu, j'adore Dieu. Et ensemble, on forme cette maison pour le Seigneur. Je sers à bâtir l'Église, déjà par qui je suis. Puis ensuite, il va aussi nous utiliser dans ce qu'on sait faire ou dans les dons qu'il nous donne, mais moi, pierre vivante, qui me donne pour le corps, qui me donne pour former un ensemble, au-delà de mon propre qui t'appelle, je me donne à celui qui bâtit. Et ça poursuit en disant, mais vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices, et c'est ça, pour offrir des sacrifices de louange, pour s'adresser à Dieu, pour l'élever. Un groupe de passionnés assoiffés de Dieu. Parce que c'est lui qui bâtit l'église en général, et ce qu'on désire, j'espère, c'est vraiment notre cœur, que c'est lui qui bâtit cette église ici. Et il ne bâtit pas une église où je peux aller, mais il nous bâtit en église fondée sur lui le fondement. C'est pour ça qu'on veut le chercher, puis qu'il soit le centre, puis qu'aujourd'hui on peut être tellement reconnaissant, parce que c'est lui qu'on met à l'honneur. Et vous avez déjà vu dans nos stories Instagram, Facebook, ben, passionné de Dieu, passionné pour les gens, c'est un peu notre vision en résumé, mais on ajoute toujours un petit slogan, l'église passion, une église pour toi. Et j'aimerais dire aussi ce matin, une église par toi, une église pour toi, mais une église par toi aussi, par chacun d'entre nous, qui nous donnons comme des pierres vivantes. Et ce passage continue où il est dit, je choisis une pierre de grande valeur et je la pose en Sion, c'est-à-dire l'église, comme fondation. Et celui qui met sa confiance dans cette pierre, dans ce fondement, ne sera pas déçu. Et ça poursuit encore où il est dit, mais vous êtes le peuple de Dieu, que Dieu a choisi pour annoncer de grandes choses. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers la lumière. Et là, on arrive à un peu un message que j'ai prêché il y a un mois, mais qui est aussi sur notre cœur, qui fait partie de notre vision. On est une race choisie, le mot grec, c'est génos, c'est les gènes, on a les mêmes gènes, la même famille de Dieu, cet ADN d'être des serviteurs de la maison de Dieu pour communiquer, pour aller des ténèbres à la lumière et puis briller, pour amener les gens à découvrir cette lumière-là. Un groupe de gens qui se donnent pour le corps, qui a cet appel de sortir des ténèbres vers la lumière, mais pour en amener. Et je crois que c'est merveilleux ce qu'il fait. Il désire vraiment nous former comme un groupe de passionnés qui transmet cette lumière. Donc pour terminer en disant, ben, ça commence en s'approchant de lui, en se donnant à lui, en se donnant aussi pour son corps, qui qui est toujours lui aussi, donc sa maison, est dirigée vers la lumière. Et c'est ce qui brûle dans notre cœur, une église qui cherche Dieu, qui écoute Dieu, et puis qui répand sa vie, simplement en étant, puis aussi s'il nous le demande, si on voit le Père agir, parler, guérir en le faisant aussi. Pour qu'on puisse, comme je disais, il y a deux cultes, être un temple, entre guillemets, donc une église qui est nous-mêmes, toi et moi, un temple ouvert, un temple accessible, puis un temple de bonne odeur, pour briller, pour toucher tous les gens qui ne savent pas qu'ils ont une famille. Seigneur, je te remercie parce qu'on est tellement reconnaissant de tout ce que tu as déjà fait, rien que juste en une année, et aussi toute la gestation avant. Mais Seigneur, c'est juste les prémices, quoi, c'est juste le début, on se réjouit d'avance de qui tu es aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas juste être mélancolique et regarder comme les personnes qui parlent tout le temps du passé. Mais Seigneur, on veut vraiment vivre ta présence, donc le présent avec toi, et surtout aller dans le futur que tu as prévu pour chacun d'entre nous, et pour nous en tant que famille, en tant qu'église, et aussi pour toucher les gens qui ne te connaissent pas encore, et il y en a tellement aussi dans cette région. Seigneur, on veut vraiment fonder notre vie et fonder cette église sur cette pierre principale qui est ta présence, qui est toi. Et de là, on va pouvoir édifier ce temple de ta présence pour que tu puisses agir, pour que tu puisses accueillir un temple où tu règnes, où tu es là. Et Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, au-delà de la reconnaissance, de la fête qu'on va encore faire, j'aimerais juste te dire, Seigneur, je suis prêt à être une de ces pierres, parmi les autres, tous ensemble, à former cet édifice. Et continue ton œuvre, Jésus. On veut continuer de te suivre dans cette aventure, dans ces défis, dans ces joies. On veut continuer d'aller dans ce chemin nouveau qu'on ne connaît pas comment c'est dans la suite, mais on t'aime, on veut te suivre. Amen.
Amen. Amen. Merci. Merci. David et Diane, merci beaucoup.